Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca. C'est le tome 36, le chapitre 394 de Mission Encre Noire qui commence. Pour moi, Buckley continue d'aller à la dérive en fredonnant Alléluia pour mieux imiter Leonard Cohen. Il ne se méfie pas assez des refrains des chanteurs du Québec, d'Édith Piaf et des sirènes françaises. Sur les rives du Mississippi, les enfants disent entendre sa voix si mélodieuse. Les petiotes rêvent de plonger dans l'eau boueuse pour former un cœur de gamine morte. Maman, elle, ne prend même plus la peine de s'arrêter pour écouter Buckley. Elle n'a jamais aimé la musique américaine, et encore moins quand il y est question de Dieu. À maman, sa propre mort lui a confirmé l'absence d'un créateur. Ni à Niagara, ni le long du Mississippi, elle n'a senti une présence divine. Ah ça, non. C'est comme lorsqu'Amandine et Clémentine ont disparu sous le camion. Il n'y avait aucun au-delà pour réconforter les vivants. On est resté hébété devant le vide. Pendant des années, toute la famille a eu l'air ahuri. Quand on se retrouvait, on ne pensait à rien. Sonné. On était sonné. Les gamines avaient été écrabouillées. Il n'y avait personne pour s'excuser et la vie continuait. Le paradis est une vaste blague et l'Alléluia a quelque chose de ridicule. Alors souvent, maman le laisse errer, Jeff, tout seul, dans son coin. Celui-là, qu'il aille croire en ses balivernes ailleurs. Le fleuve est grand, après tout. Et elle continue sa route sans même lui faire ses adieux, quitte à tomber sur lui de temps à autre, à Memphis ou en Arkansas. Jeff et maman oublient alors leurs différends en chantant du Piaf de concert. Mais maman fausse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Niagara par Catherine Mavrikakis, paru en 2022 aux éditions Héliotrope. Si les géologues prévoient la disparition des chutes du Niagara d'ici 50 000 ans, la narratrice guette encore au bord du parapet l'apparition improbable de la silhouette fantomatique de sa mère, morte depuis belle lurette, supposément par noyade, dérivant au long des rives des grands fleuves du continent américain. Car voilà, ce deuil éveille en elle pourtant ce rêve insensé. Que ce soit à partir des photos de son enfance lors d'une première visite aux célèbres chutes en 1964, ou bien une phrase de Marguerite Duras, la narratrice voit encore et encore le corps aimant disparaître sous les écumes et rejoindre les berges du Mississippi. Marquée par le séisme de la disparition de sa mère, elle y retrouve une inspiration inédite qui, sur le modèle de François-René de Chateaubriand, ou est-ce peut-être Flaubert, Mallarmé ou même Jeff Buckley et bien d'autres, lui permet d'élaborer de véritables mémoires d'outre-tombe. Se dessine sous la plume espiègle et badine de l'autrice un portrait tout aussi jouissif que douloureux de ce qui fonde, il faut bien se l'avouer, un héritage. Plouf, donc, sillonnant le territoire américain des songes, Catherine Mavrikakis s'amuse à dégringoler ses chutes car c'est à Niagara qu'elle a contracté la maladie de la mort. De quoi s'agit-il au juste? J'accueille ce soir à Mission Encre Noire Catherine Mavrikakis. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Vous avez publié de nombreux romans, dont La balade d'Ali Baba, Les derniers jours de Smokey Nelson, Le ciel de Bay City, Oscar de Profundis et L'annexe. Vous êtes l'autrice d'un oratorio, Omaha Beach, et d'un premier récit sur votre mère, L'absente de tout bouquet. Votre plus récente fiction parue s'intitule Impromptu. Vous avez écrit aussi des essais, parmi lesquels Diamant d'Agalas, Guerrière et Gorgone et L'éternité en accéléré. Votre œuvre est traduite en plusieurs langues et a été maintes fois récompensée, notamment par le prix des collégiens, le prix des libraires et le grand prix du livre de Montréal. Alors votre mère est de nouveau au cœur de ce roman Niagara, comme l'était votre père dans La balade d'Ali Baba. Chose intrigante, l'une comme l'autre sont en quelque sorte en fuite sur le territoire américain et l'une comme l'autre, bien que disparues depuis quelques années déjà, apparaissent bien vivants ici et là, d'autant plus que c'est une photo prise par votre père qui déclenche le récit. Niagara serait-elle l'intersection de plusieurs trajectoires de vie, de plusieurs trajectoires de récits même ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Niagara est le lieu d'une reprise, je pense que c'est une reprise, et en même temps d'une reprise qui est tout à fait une trahison de mes autres livres. Ce que j'essaye de penser, c'est l'américanité de la mort de mes parents. Mes parents étaient des immigrants qui auraient souhaité, je le crois, être enterrés dans leur pays d'origine, et je leur fais une sépulture américaine qu'ils auraient peut-être refusée, et j'ai l'impression d'avoir repris beaucoup de choses qui étaient dans mes autres textes, mais pour le déplacer, mon travail est... Et bon, on peut me le reprocher, est à la fois peut-être pas original, mais moi j'ai l'impression que c'est une répétition, c'est une insistance, c'est un déplacement. Je continue à faire de ces parents-là des gens qui m'accompagnent à travers la vie, et je les mets sur, je les oblige à parcourir le territoire américain, eux qui étaient un peu dans la nostalgie de l'Europe. Et je tiens à dire que j'ai lu récemment un très beau livre de celui de, alors vous parliez de, c'est peut-être aussi ce livre, c'est la précipitation, on pourrait dire, ou le lieu où tout converge, où toute mon œuvre converge, mais je pense aussi à d'autres œuvres. J'ai lu un très beau livre de Vinciane Després qui s'appelle Au bonheur des morts, où elle raconte comment les morts nous accompagnent à travers la vie, et elle le montre de façon anthropologique et philosophique, c'est-à-dire même s'ils sont plus là, ils continuent à être là pour ceux qui pensent à eux, et j'avais l'impression que mon livre était aussi non seulement en dialogue avec ce que j'ai fait, mais en dialogue avec un certain nombre de textes en ce moment qui parlent des morts, dont aussi un texte de Delphine Horviller qui parle elle aussi de son rapport aux morts et comment les morts sont là. Donc j'ai l'impression qu'il y a toute une réflexion en ce moment qui est faite, et moi je la fais pas de façon philosophique ou sociologique, mais je la fais à travers mon texte Niagara. Alors, mon récit Niagara.
S'agissant de dialogue, au début de votre livre, il y a deux citations. L'une de la poétesse, écrivaine et enseignante afro-américaine Lucille Clifton et Paul Verlaine. Ils illustrent ces débuts de votre livre. La rivière Mississippi et la poésie européenne se répondent. C'est une conversation que l'on retrouve tout au long de livres, et je dirais même tout au long de vos livres. Je dirais cette opposition peut-être, ou peut-être l'intersection où se retrouve à travers votre œuvre l'Amérique et l'Europe.
Tout à fait, je vais aller peut-être même plus que vers la dissection, je vais dire la superposition. J'ai l'impression que je mets ensemble deux cartes géographiques, celle de l'Europe et peut-être de l'Afrique du Nord parce que mon père venait d'Algérie, et puis je recouvre ce territoire-là par le territoire américain qui a été la terre d'immigration de mes parents. Et j'ai l'impression que je fais en sorte qu'ils s'amalgament, je fais un peu fi des lois terrestres et des lois physiques, je me permets de changer le territoire. Quand j'ai écrit ce texte, c'était pas du tout important de savoir si c'était possible de dériver à travers vraiment à travers tout le continent. J'ai inventé, et c'est possible en fait, mais je veux dire, c'est pas important pour moi. C'est pas la part réelle du monde qui me tente, c'est la part symbolique. C'est-à-dire, quand on est enfant d'immigrants, il me semble qu'on est capable de voir les deux continents à la fois.
Alors on devine évidemment
deux endroits à la fois.
On devine la voix de votre mère dans les livres, évidemment, même dans des expressions françaises classiques qui sont parsemées ici ou là avec tendresse, notamment, bon, je pense citer quelques-unes, hein, un froid de canard, faire la bringue dans les marigots, comme deux larrons en foire, tout passe, tout fout le camp, enfin bref, il y en a comme ça plusieurs, perdre la boule. Vous dites, je me ferai obstétricienne des torrents, des cascades et des étendues d'eau pour tirer le corps de votre mère hors de son vieil ennemi, le Mississippi. Alors pourquoi cette quête incessante du corps de votre mère? Et surtout, pourquoi le fleuve est-il ou était-il une menace?
Oui, alors le corps, c'est le corps de la langue aussi. Vous avez tout à fait raison. J'essaye de garder des phrases intactes de ma mère qui des fois me reviennent comme des ritournelles. J'ai l'impression que finalement le corps de ma mère, c'est le corps de cette langue qui reste vivante et qui apparaît dans le texte de temps à autre. Alors pourquoi le fleuve? Parce que je pense que le fleuve est un lieu où on a beaucoup pensé. La mort, la disparition, traverser le Styx, c'est aller de l'autre côté. Je pense que le fleuve aussi est le lieu de comment dire, de la chute vers dans le temps. Quand ça tout coule, on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, disent les philosophes. J'ai l'impression que le fleuve, c'est ce qui nous amène vers l'effacement. Or, j'ai envie que ce corps de la langue, dans mon texte, flotte dans le texte. Vous avez tout à fait raison. J'ai l'impression que j'ai maintenu certains radeaux de la voix de ma mère à travers le texte. Et j'avais envie aussi que ce corps qui, malgré le temps qui passe, malgré le fleuve coule, ce corps reste en train de surnager le temps qui nécessairement va l'abolir. Voilà, c'est un peu ça mon idée. Et je trouve que votre idée de... Oui, c'est vraiment la langue. Pour moi, c'est ça. C'est la langue qui me permet de rester et de surnager, de ne pas me noyer dans le temps qui passe.
L'idée de la mort traverse également tout le roman, celle des proches, des amis, celle qui jalonne l'histoire du Mississippi. Ces personnages illustrent ces écrivains, ces écrivaines. Et La maladie de la mort, dont vous parlez, c'est aussi également un titre, un livre de Marguerite Duras, dont un des thèmes est l'amour impossible. C'est un texte intime qui ressemble à une sorte de confession de l'autrice. Alors même si l'histoire diffère ici avec Niagara, La maladie de la mort, pour Marguerite Duras, est l'incapacité à aimer réellement. Est-ce là également un thème central dans Niagara, l'amour impossible d'une mère décédée ou l'amour impossible pour un pays clivant comme l'Amérique ?
Il y a l'amour impossible d'une mère décédée pour ses enfants aussi. Je crois qu'il y a eu la maladie de la mort. Ma mère l'avait, c'est-à-dire qu'elle était déjà un peu, je crois, aussi morte par son exil. Elle racontait toujours combien elle était vivante à l'extérieur quand elle était à Paris et quand elle est arrivée en Amérique du Nord, elle n'a pas pu. Et moi, j'ai eu l'impression d'écrire un roman joyeux. Peut-être que ça se voit pas, mais vous avez parlé, il y a quelque chose d'espiègle dans mon texte, c'est-à-dire que j'ai l'impression que cette maladie de la mort que ma mère avait et que je peux sentir parce qu'elle est morte et tout s'en va, tout va à volo, c'est le cas de le dire, j'ai l'impression que dans mon texte, j'arrive quand même enfin, c'était le but du texte, par une certaine esthétique, à montrer que, à forcer cette femme à dériver et à être partout sur le continent américain. Et il y a quelque chose de très jouissif pour la narratrice qui finalement arrive à jouer avec le corps de la mère et à lui dire cet amour impossible cet amour que tu n'as pas eu pour moi, j'en fais quelque chose qui vaste comme le continent et qui nous amène ensemble dans une histoire qui ne t'appartient plus.
Vous dites, lorsque l'on a étudié la littérature, on refait le dictionnaire des idées reçues de Flaubert. On devient alors DJ. Alors, dans votre mix, j'ai regardé, on trouve de tout. Michael Jackson, North by Northwest ou Rebel Without a Cause, Uma Thurman, Rita Mitsouko, Men Without Hats, la musique des années 80 et bien sûr Jeff Buckley et bien d'autres. Jeff Buckley, l'un des noyés célèbres du livre. Suivre les méandres du fleuve, errer à vos côtés, revient en quelque sorte à partager avec bonheur et drôlerie parfois votre version du rêve américain. Qu'y a-t-il dedans ? Ça donne quoi les USA vus par Catherine Mavrikakis ?
C'est une caverne d'Ali Baba, j'ai envie de dire. J'ai mis tout ce qu'il y a dedans. Ou alors, j'ai l'impression que vous avez raison, vous avez parlé de grâce tout à l'heure. J'ai l'impression que mon travail est vraiment un travail de DJ, c'est-à-dire que j'ai tout ce passé, j'ai tous ces textes que j'ai lus parce que je suis prof de littérature et j'ai l'impression de remixer. Alors on peut ne pas aimer, moi j'aime beaucoup ça, la musique qui remixe. Donc il y a des gens qui cherchent une musique originale, je ne sais pas ce qui arrive, mais pour moi c'est le remixage et cette Amérique-là, c'est une Amérique qui est propre à moi, bien sûr, mais qui est une Amérique de l'entre-deux. Je pense que c'est aussi bien une Amérique qui est américaine qu'une Amérique qui est vue par les Européens, parce que j'ai l'impression d'avoir pas mal pris aussi de trucs aux Européens, et particulièrement la littérature. Mais je pense que c'est une Amérique composite qui est avant tout un territoire impossible à s'approprier.
Alors nous allons suivre votre tracé de la descente du fleuve Mississippi. D'où vient d'ailleurs cette fascination pour le sud des États-Unis ? Vous citez Mark Twain, William Faulkner, mais également des souvenirs de voyages à la Nouvelle-Orléans ou Memphis, Tennessee.
Oui, ça vient réellement de notre premier voyage. Mais c'est aussi la littérature américaine que j'aime. J'aime beaucoup la littérature du sud des États-Unis. J'aimais beaucoup Flannery O'Connor. J'aime beaucoup Faulkner. J'ai toute une impression que la littérature du sud des États-Unis, vous allez trouver ça peut-être un peu étrange, mais a été ou est proche d'une certaine littérature québécoise, et particulièrement Faulkner. J'ai l'impression qu'il y aurait moyen de réécrire Faulkner en faisant un écrivain québécois. Donc, j'ai eu l'impression d'avoir un choc, moi, quand je suis allée aux États-Unis, que la première fois. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du Québec que j'arrivais pas à nommer, j'étais petite, hein. Et dans le sud des États-Unis, alors que c'était encore presque la ségrégation, j'ai eu l'impression de le voir. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose il y avait quelque chose de pas encore tout à fait pris par le rêve américain un peu faux. On était encore avec des choses très horribles, mais qui travaillaient la matière même des États-Unis, en donnait une autre version. Donc pour moi, ça a été un choc, vraiment un vrai choc. Et puis je suis allée là. Je vous dis, il y avait beaucoup de restes de la ségrégation quand je suis allée la première fois enfant. Donc, il y avait aussi un choc politique pour moi, parce que cette Amérique qu'on m'avait dit, oh ben c'est la terre de la liberté, j'ai pas vu comme ça du tout enfant. Hein. Même j'avais l'impression qu'il y avait une pauvreté dont on ne m'avait jamais parlé.
Et le lectorat va pouvoir se régaler au cours de cette lecture, non seulement à vous lire, mais également à vous y faites une rencontre inédite. Blues et mélancolique avec la lune à Saint-Paul, Minnesota, mais également vous enlevez votre gant droit pour que Francis Scott Fitzgerald vous prenne les doigts dans les siens, une flasque de brandy dans l'autre, pour un tête-à-tête inédit, Mavrikakis Fitzgerald. Qu'avez-vous à lui faire partager ? Qu'aviez-vous à lui dire à cet écrivain ?
J'aurais tout à lui dire. Le plus grand livre pour moi que j'ai lu, c'est pour moi, c'est The Great Gatsby de Fitzgerald. Je trouve que c'est un livre qui est très court, mais qui arrive à montrer ce que c'est un amour impossible, justement, et qui, en même temps, travaille sur la question des classes du parvenu. C'est-à-dire du parvenu, Gatsby va être parmi les riches dans les années 20, mais il ne sera qu'un parvenu parce qu'il vient pas de cette aristocratie américaine. Ça peut être presque un oxymore, mais il vient pas de cette aristocratie américaine. Et moi, la question du parvenu en littérature, elle m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire, c'est quoi être un écrivain parvenu ? C'est quoi un écrivain qui n'avait pas le droit à l'écriture et qui a, d'un seul coup, pu écrire. Quand on vient pas des classes sociales qui sont lettrées, comment on peut se mettre un jour à écrire? Quelle légitimité on se donne? Alors Fitzgerald, pour moi, c'est celui qui a compris ça. C'est aussi quelqu'un qui a compris que la vie, c'était, même ça, c'est pas de lui qui a dit ça, mais que la vie, ça peut être une fête tragique et qu'il faut parfois, il y a un moment donné, il raconte qu'il vient de perdre plein d'argent, que c'est un peu la dépression, il dit allons au cinéma. Il y a quelque chose comme ça pour moi de, d'une force de survie dans les moments les plus terribles.
Mmh. Alors, brinque-ballée dans cette descente aux enfers du Niagara, votre narratrice nous révèle quelques écueils intimes qui jalonnent le parcours. Loin d'être de tout repos, bien entendu. Alors, les années 80, ce sont les années terribles du sida, vous le rappelez également. L'un de vos amis est décédé, l'accident de voiture de deux cousines, la mort d'un ami cher, Ted. Le fleuve Mississippi est en quelque sorte votre Styx, la rivière des enfers.
Tout à fait. Je pense que c'est dans mon livre, c'est le cimetière. C'est le cimetière qui est vivant, parce qu'il coule. C'est pas la terre dans laquelle on met les gens et plus le Mississippi, c'est là où coulent tous les souvenirs, je pourrais dire sont enterrés, mais sont enterrés dans un mouvement infini. Et c'est ce mouvement que je vais privilégier par l'écriture. J'avais l'impression de faire un texte qui coulait parce que j'avais envie que les souvenirs restent mobiles, restent ils sont là, bon, ils peuvent changer, ils peuvent se transformer. Donc, oui, tout à fait, le Mississippi, c'est le lieu pour moi de ce cimetière vivant qui est mon imaginaire.
Alors, si les souvenirs sont mobiles, vous rappelez également toute la violence de l'histoire américaine, tout comme son actualité. Vous évoquez la mort de Martin Luther King, celle de Emmett Till, lynché à Monet, ou encore la visite d'une plantation, la plantation Bella, qui vous a interpellé plus jeune. Quels souvenirs en gardez-vous, vous qui écrivez on y retrouve une douceur évanescente, morbide, d'une époque coloniale, pas tout à fait révolue.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai été très surprise de comment l'époque coloniale était encore très présente aux États-Unis et j'ai l'impression qu'elle est encore, c'est-à-dire que on est bien sûr le lynchage des Noirs n'a pas lieu de la même façon, mais on a on le voit à la télévision, les Noirs restent une cible privilégiée de la police et de la justice, et j'ai l'impression que l'histoire américaine justement elle coule, elle repasse par les mêmes endroits. Ça bouge et puis ça repasse. C'est justement, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est un long fleuve qui prend beaucoup de détours et qui parfois va dans les mêmes méandres. Donc, j'ai été frappée en écrivant mon texte de voir comment il y a des choses que je lisais de Martin Luther King parce que qui me semblaient encore tout à fait vraies, mais autrement, mais il y avait comme ça une parole ou une tristesse du monde noir qui me semblait absolument contemporaine.
Alors finalement, le destin de votre mère de papier est pas mal enviable à beaucoup de cadavres présentés ici, célèbres ou non, de Josephine Baker à Ted ou Grace Kelly. Au fameux « Poussière, tu retourneras poussière » qui est un peu galvaudé, finalement, vous préférez sans doute le « Poussière, tu finiras dans un livre ».
Oui, tout à fait. Mais je crois pas justement à la poussière. Je pense que mon imaginaire, c'est vraiment pas celui de la poussière, de la dissolution et de la dispersion, etc. Je pense que c'est vraiment un imaginaire de l'eau. C'est-à-dire, et peut-être que c'est le livre, parce que le livre, c'est, pour moi, c'est aussi un torrent de mots où c'est la lecture linéaire, c'est un fleuve qui peut couler ou un ruisseau qui coule. Mais j'ai l'impression que c'est tu retourneras haut. Tu vas peut-être, il y a comme un imaginaire comme moi, tu viens du milieu à queue et tu y retourneras. Donc, j'aime bien parce que pour moi, l'eau est à quelque chose quand même de la possibilité d'une renaissance. C'est là où on est baptisé, c'est là où il y a un ressourcement qui peut se faire dans l'eau. J'ai l'impression que la mort, quand elle est conçue comme ça, est plus, ce que je vous disais, plus mouvementée et plus vivante.
Vous dites visiter les chutes avec votre fille Savannah. Alors, a-t-elle aussi pris une photo de vous deux à Niagara qui serait désormais en sa possession. Et comment partagez-vous justement cet héritage avec elle, cette obsession? Est-ce que ce livre est sans doute pour elle, d'ailleurs?
Alors, j'ai vraiment une fille, Savannah Lou. Je pense pas qu'elle vive mes obsessions. Je pense qu'elle est un peu en train de me dire, maman, elle fait son, c'est une drama queen. Vous voyez ce que je veux dire? Maman, elle fait son cinéma. Donc, j'ai l'impression qu'elle a à la fois un regard tendre, bienveillant, mais aussi amusé. Et dans un des chapitres, c'est ce que j'essaye de montrer. C'est à la fois, je la mets en position presque de psychanalyste qui a l'écoute flottante, et le mot flottant est encore important. C'est-à-dire, je la mets là et elle écoute sa mère, mais en même temps, elle pense à autre chose, et puis finalement, bon, voilà. Oui, et j'avais envie de montrer aussi la drôlerie de cette obsession par quand il est vu ou entendu par Savannah, le personnage. Donc. Parce qu'on ne peut courir de cette obsession aussi. Hein. je veux dire, ma narratrice, quand même, un personnage un peu ridicule, mais charmant, mais ridicule.
Pour finir, puisque nous sommes dans le Sud, Niagara, finalement, c'est un peu votre blues à vous, votre champ de travail qui exprime ses amours, ses envies, comme ses lamentations, votre blue devils, vos diables bleus, vos idées noires. Est-ce que c'est ça, un peu Niagara, rythmé par le Mississippi, votre blues?
Oui, je pense que c'est une longue plainte aussi. Je pense que c'est une longue plainte. Et puis, dans le blues, parfois, il y a des effets d'improvisation, il y a des effets dont on se met à crier très fort ou à chanter très fort, on improvise. Je le pense tout. J'ai pas tant improvisé que ça. J'ai beaucoup travaillé mon texte, mais je voulais qu'il y ait un effet d'improvisation, un effet de décousu, un effet de lamentation, mais parfois qui peut être un peu outrancière. Et les gens ne seront pas d'accord, ceux qui aiment vraiment le blues, mais moi j'entends ça quand même dans le blues, des fois quelque chose de comme on dirait en anglais, de too much, mais c'est ça qui tient, le too much.
En tout cas, ce livre est une invitation à embarquer sur le Made of the Mist, dans le tourbillon au pied des chutes qui, après un plouf de circonstances, vous entraîneront à vous délecter du blues de l'autrice à travers les mouvements agités de l'histoire au long de la dérive inspirée de la silhouette fantomatique de sa mère de papier. Niagara par Catherine Mavrikakis, paru en 2022 aux éditions Héliotrope. Merci Catherine pour votre visite à Mission Encre Noire. Devant ce champ d'épaules et de coudes, je réalise mes envies. Laisse-moi boire la pulpe des tournesols au banc des joueurs. Je n'ai aucun mérite pour être discret comme une balle tombante. Ça se forme dans l'écho de mes gencives. S'il pleut encore aujourd'hui, nous ferons des gestes augustes qui ne mèneront à rien. Tu me l'as appris ? Tout est une question de flexibilité pour le bois des arbres. Ça m'arrive encore de confondre le troisième avec ton ventre, deux lisières où ma contenance se rompt devant l'éclat du geste. À ce point-ci, je ne sais pas ce qui peut survenir dans la crevasse de mon gant, mais je garde secrète une passion pour les terrains de baseball la nuit. Ceci est un extrait de La scoliose des pommiers par Anthony Lacroix, paru en 2022 aux éditions de La Maison en Feu. Si vous ne comprenez rien à ce livre, oubliez-le dans la salle d'attente d'une forêt. C'est l'avertissement qui est donné en entête du recueil de poésie, alors que le poète prévient en quatrième de couverture « Je ne sais pas être poli autrement qu'avec les animaux sauvages ». La scoliose des pommiers est un premier recueil de poésie écrit sur 2 ans, entre une période de pandémie et une autre de convalescence. On y parle d'angoisse, de mélancolie, de baseball, de botanique, de mauvaises herbes, de la fébrilité des eaux ou d'hôpital. Dans cette ville froide, le corps est en lutte contre la maladie, l'assignation à résidence, l'ordinaire de la vie. Il attend l'étincelle qui le fera tomber amoureux d'une fleur qui ne soit pas issue de ses veines. Si Mission Encre Noire prend des allures de terrain de baseball, prenons une marche jusqu'au stade ce soir où j'accueille un sérieux candidat au pitch. Anthony Lacroix est mon invité. Bonsoir Anthony.
Bonsoir, ça va bien ?
Ça va bien. Anthony Lacroix, vous avez grandi à Saint-Claude, vous habitez Rimouski, vous avez fondé les éditions Fontaine en 2012. Vous avez publié 3 livres, Carcasse d'Occident, Haïku et autres non-poèmes en 2014, Les femmes que j'aime ne font pas de bicyclette en 2021 et La scoliose des pommiers en 2022, ainsi que de nombreux textes dans des revues comme Le crachoir de Flaubert, Moebius, Poésie en liberté et La chambre claire. Alors, vous choisissez en incipit 2 citations, l'une de François Turcot et l'autre de Frédéric Dumont. Pourquoi ces choix ?
C'est 2 lectures, en fait, Souvenir liquide et le dernier de Frédéric Dumont, voyons, j'ai un blanc. Sur le tout, c'est 2 recueils qui m'ont vraiment happé. Frédéric Dumont, son dernier recueil, il venait juste de sortir au moment où j'étais en train de finaliser le mien. Et le dernier poème, non, je ne dirai pas, là, je laisserai aux gens qui ne le connaissent pas le plaisir de le découvrir. Je pense que c'est Chambre minimum, si je ne m'abuse. Mm-hmm. Est un lecteur avec qui est venu vraiment comme confirmer ou conclure tout le travail éditorial que je suis en train de faire à ce moment-là. Et François Turcot, je le lis, je le relis. C'est vraiment quelqu'un dont les démarches de poésie ressemblent aux miennes, ou du moins ressemblent aux miennes dans la scoliose des poésies. Ça va être sur le bon, sur la sensibilité qui nous entoure. Là. Mm-hmm.
Vous prévenez votre lectorat, si vous ne comprenez rien à ce livre, oubliez-le dans la salle d'attente d'une forêt. Alors pourquoi autant rendre à la forêt ce qui lui appartient ? Avez-vous peur de ne pas être compris ?
Ben, je pense qu'il y a toujours des gens qui ne comprennent pas de la poésie, ou en tout cas, j'avais peur aussi qu'avec ce livre-là, La scoliose des pommiers, qui est sorti peu après Les femmes que j'aime, qui est un recueil, un livre vraiment très différent des femmes que j'aime. Donc, si je pense, mettons, à mon père, qui ne lit pas beaucoup de littérature au sens général, s'il pensait aborder La scoliose avec la même famille. Donc, je pense que j'ai un peu cette peur-là. Son premier recueil de poésie, au sens de la poésie, comme je l'entends, parce que Carcasse d'Occident, c'est plus des monologues. Les femmes que j'aime, c'est plus des nouvelles. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai peur encore de m'affirmer comme poète. Ça va mieux, là, mais au début, j'avais peur.
Alors, les 13 textes qui composent ce recueil, dans quelles conditions les avez-vous écrits? D'ailleurs, sont-ils tous des inédits?
Non, c'est pas tous des inédits. En fait, loin de là, peut-être la moitié du recueil. Le contexte a été que la pandémie, moi, a été très favorable pour ma création. À Rimouski, bon, on était un peu habitués de ne rien faire. Donc, le fait que les bars fermaient ou qu'il y avait moins de spectacles, bon, il y a des spectacles quand même à Rimouski, là, mais il n'y en avait plus. Ça me mettait une solitude qui était un peu habituelle, mettons. C'était pas comme à Montréal, les gens qui vivent dans l'effervescence à Montréal. D'un autre côté aussi, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'invitations à participer à des revues, à des résidences d'artistes, je pense à Corona Culture, entre autres, qui m'ont donné une journée, ou la revue Le Pied qui m'a donné une résidence aussi. Donc, j'ai eu beaucoup de résidences d'artistes, beaucoup de commandes de suites de poèmes où j'avais carte blanche. Donc, ça m'a donné beaucoup de suites de poèmes. Je me suis remonté avec 5 nouvelles suites dans le temps de 6 mois. Et là, je me suis dit, bon, ben là, il y a quelque chose là, je vais creuser un peu. Donc, j'ai ajouté des poèmes pour, bien sûr, pas que les gens, ça m'étonnerait quand même que quelqu'un qui soit fan de moi au point de me lire dans toutes les revues qu'il y a.
Ah, ça, on sait jamais. On sait jamais comment ça se passe de ce côté-là.
Oui. Ça. Puis avec mon éditrice aussi, ben, Justine, dit ajoute un poème ici, ajoute un poème là. Cette suite-là est trop courte. Donc, il y a quand même beaucoup de poèmes inédits, même à l'intérieur des suites qu'elles ne sont pas. Mm-hmm.
Alors, les pommiers du titre évoquent une correspondance entre le biologique et le végétal, entre le corps et l'écorce. Alors, pourquoi cette analogie? Est-ce que c'est une analogie que tu travailles beaucoup dans les textes?
Pardon. C'est une analogie que je travaille beaucoup parce que, en fait, c'est un peu un retour à l'enfance, un peu comme dans Les femmes que j'aime, parce que moi, j'ai grandi sur une plantation de pins, en fait. Mes parents, il y avait beaucoup de pins, mais il y avait aussi des pommiers, il y avait aussi des framboises. dit. Donc, j'ai toujours vécu entouré d'arbres, entouré de forêts. Donc, pour moi, au moment où je grandissais, bon, c'est très bucolique comme façon de voir la chose, mais au moment où je grandissais, les arbres de la cour grandissaient en même temps. Donc, il y a toujours la comparaison entre moi et ces grands arbres qui m'entouraient. Bon, je mesure 5 pieds 1, ça fait que c'était encore plus majestueux pour moi. Et il y a toujours ce rapport-là, oui, avec le corps, mais aussi avec l'enfance, avec le fait de vieillir, les arbres. Un arbre, ça nous survit généralement si on est concerne la nature, mettons. Et un arbre qui est centenaire, c'est un arbre qui est énorme, qui est vaste, qui a des branches, des racines, qui a un corps presque, une présence incroyable. Donc, c'est un peu ce rapport-là qui est toujours dans ma littérature. Moi, je suis assez impressionné de la nature, de la vastitude du fleuve aussi, que si nous n'y mettons pas la main comme humain, ben, la nature peut donner des choses incroyables.
Alors, ouais. Quand vous écrivez « J'ai oublié la valeur d'une collection de glaces, je me retrouve seul à une table pour six », avez-vous souffert, justement, dans la période de confinement, du manque d'interaction sociale, et en quoi votre poésie a besoin de cette nature-là? On imagine peut-être à tort, hein, plus le poète seul face à lui-même.
Oui, mais il y a des gens qui écrivent, je pense, dans une démarche, à un moment donné, dans mon recueil, je parle aussi d'une démarche géopoétique, des gens qui écrivent dans les lieux, qui se laissent inspirer du territoire, je pense à Jean Bédard, entre autres, Camille Deslauriers, qui ont fait cette démarche-là. Moi, la façon dont j'écris beaucoup, c'est à côté au comptoir, je laisse mon oreille errer un peu, je vole des mots, je gratte des conversations, je m'inspire de gens autour de moi, donc c'est ça que le confinement... Ça m'a empêché beaucoup ça. J'ai donc dû changer un peu ma démarche d'écriture et cette démarche-là, je suis allé la chercher dans les livres. Au lieu de grappiller des mots de conversation, je suis allé grappiller des mots d'un registre soutenu dans la littérature que je lisais. Puis quelle littérature, là? Je lisais Dante, je lisais Bocarte, je lisais les grands classiques que j'avais jamais eu le temps de lire avant le confinement. Donc, le confinement, oui, ça a beaucoup influencé ma démarche d'écriture puis mon approche aussi au monde. C'est sûr que ça m'a donné de la solitude forcée, mais de la solitude peuplée aussi, de la solitude peuplée de plein de livres que j'aurais jamais pris le temps de lire, peut-être avant.
Précisément, comment composes-tu ta poésie? Est-ce que la mixité des formes reste importante pour toi?
Je travaille beaucoup au son. Je collectionne mes mots qui sonnent bien à mes yeux. J'essaie de faire des agencements sonores. Des agencements, oui, qui ont une répercussion comme au niveau de l'image. La scoliose des pommiers, c'est sûr qu'un pommier, c'est croche, ça a le dos courbé, donc nécessairement, dans mon imaginaire, ça a une scoliose. Mais c'est aussi un mot que je trouve qui sonne bien. Scoliose, je trouve que ça sonne bien. Donc, il y a toujours la démarche de l'oralité, du monologue, du slam dans ma démarche d'écriture aussi. Je dis beaucoup mes poèmes à voix haute. Quand je marche beaucoup, je n'ai pas de voiture. Donc, dans Rimouski, je peux marcher 20, 30, 40 minutes pour me rendre au travail. Et je me répète des mots et des vers comme ça qui me viennent dans l'oralité. Donc, c'est beaucoup comme ça que je travaille, en grappillant des mots, en collectionnant des sonorités. Je connais rien à la musique, mais... Dans la musicalité des mots, il y a quelque chose qui m'appelle.
Ah bah, si vous ne connaissez rien à la musique, vous y connaissez en scène, parce que dans les portraits qui se dessinent, psychiques, plus descriptifs, quotidiens, vous parlez de lire à voix haute vos poèmes, à l'oralité. Est-ce justement un héritage de la scène, un héritage de votre passé de la scène slam en particulier?
Oui, ben je peux pas penser autre. C'est sûr que moi j'ai commencé la poésie. Mes premiers contacts avec la poésie, c'est Cuenca, Elkanah Talbi, c'est Catherine Cormier-Larose sur scène, c'est Jean-Sébastien Larouche. C'est sûr que cette poésie punk là de scène qui rentre dedans, qui rentre, c'est ça qui m'a influencé. J'avais 16-17 ans puis je voyais Catherine Cormier-Larose sur scène. Comment pas écrire des poèmes après?
Alors, s'agissant de poésie punk, Marjolaine Beauchamp, qui vient du slam à ses débuts, déclare, ou en tout cas parle, d'une force sauvage, anti-système, acquise lors de ses années d'apprentissage. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que pour vous, cette poésie doit être forte punk sauvage?
Je pense que la poésie, par définition, est quelque chose de sauvage, quelque chose qui nous prend au trip. De nous malgré nous, je pense. C'est une façon de voir le monde qui est un peu à côté. Bon, après, c'est sûr que c'est, j'ai une personnalité de gauche aussi. J'aimerais ça avoir une personnalité aussi punk que Marjane Beauchamp, que j'admire beaucoup son travail. J'aimerais faire des grands poèmes qui ont l'air de show punk, mais je ne suis pas capable. Je fais des poèmes de mélancolie. Mais c'est sûr que la poésie, je pense que la poésie, c'est une façon de voir le monde qui est nécessairement un pas à gauche de ce qu'on attend de nous dans un système plus rectiligne, je pourrais dire. Donc oui, je pense que la poésie doit être une poésie de révolte. Je pense que la poésie, par définition, c'est un acte de révolte. C'est un acte engagé, non seulement qu'écrire un poème. Ne serait-ce que même si c'est un poème d'amour dans la marge d'un agenda, c'est quand même... Pendant ce temps-là, t'écoutes pas ton cours de français. C'est un poème.
Alors, vos premiers mots sont intrigants. Si je me présentais, tu ne me croirais pas. Vous rajoutez plus loin, toutes les fois que j'essaie d'écrire un poème, un oiseau meurt en plein vol. On dirait que le poème naît d'un petit désastre. Est-ce que vous posez la question d'être légitime en tant que poète?
Toujours. Je pense que si je me sentais légitime, j'arrêterais d'écrire. Je pense qu'il y a toujours essayé de. J'essaie toujours de sortir le mieux de moi-même, toujours essayer d'aller de l'avant, puis de changer mon style ou de m'améliorer, d'évoluer. Fait que, je pense que le pire qui pourrait m'arriver, c'est de m'asseoir sur voici, j'ai une démarche établie, voici maintenant je suis poète, écoutez-moi. je pense que j'ai toujours une démarche de l'avant. C'est sûr que je suis encore très, très jeune dans mon monde de publication. Là, ça reste mon premier recueil de poésie, c'est mon troisième livre. J'ai pas une grande œuvre derrière moi. J'ai pas une œuvre subséquente. Donc, j'ai encore de la parenthèse à la légitimité. Puis, je pense que c'est le même problème que quand quelqu'un me fait des compliments, j'ai toujours de la misère à les prendre, de toute façon. Mm-hmm. Je pense que j'ai été élevé dans le fait d'être, de donner aux autres plus que de prendre. Donc, je pense que ça fait un peu de ça.
Alors, la voix du poète est souvent radicalement altérée. Vous évoquez le bar ou être au bar à écouter ou à recueillir les commentaires. La boisson dans le recueil également apparaît assez souvent, ce qui se traduit dans des images fulgurantes, comme ce titre d'ailleurs, « Les oiseaux éthyliques se lèvent plus tard que les autres ». L'ivresse, c'est le dérèglement des sens qui est recherché?
Je pense que c'est l'apaisement de mon cerveau. Moi, je suis TDAH, super actif. Je parlais avec une amie récemment qui est au Salon du Livre de Rimouski aussi. C'est le Salon du Livre de Rimouski en ce moment. Et au moment où on se parle, puis il y a beaucoup de... mon cerveau va beaucoup vite, va très vite. J'ai vu une multitude de sens. Donc, c'est sûr que l'alcool, ça aide un peu à apaiser ou à canaliser, mettons, mon cerveau, ou mes sens, ou ma façon de voir le monde. Faut faire attention, par contre, de pas... Je pense que, des fois, je peux être un peu la caricature de moi-même, là, dans le sens que ma maison d'édition s'appelle Fontaine, donc on s'attend à ce que je sois un gars qui boit beaucoup puis qui fait le party. La réalité, pendant l'écriture de la scoliose des pommiers, je n'ai pas bu une goutte d'alcool de tout le long. Là, je recommence un peu, mais toujours avec modération. La modération est du meilleur goût, comme le dit le gouvernement. Mais oui, l'alcool, la nuit, le rapport aux soirées, mais je pense que l'ivresse se fait non pas seulement par l'alcool. Bon, ça se trouve que dans le recueil, il y a beaucoup d'alcool, mais par la littérature aussi ou par l'excès. Je pense que l'excès, c'est quelqu'un qui lit beaucoup aussi puis qui est un peu ivre de monde fictionnel, qui écoute beaucoup de films. C'est quelqu'un que quand j'ai une libide, je me plonge à plein pied dedans. Là.
Quand tu écris...
Le baseball, par exemple.
Quand tu écris, j'ai un temps de retard sur la marée, ça se ressent dans le grain de ma voix, on dirait des ailes cassées. Est-ce une façon pour toi de reconnaître un rejet des conventions, un rejet d'un certain académisme à travers, je dirais, ton style, ton rythme, la langue que tu utilises?
Ah, c'est une bonne question. Très, très, très bonne question. C'est sûr que l'académiste, bon, je suis aussi étudiant en doctorat à l'UQAR, donc même en essayant de rejeter l'académisme, en me disant, non, je ne suis pas un poète qui écrit à l'université, je pense que je suis dedans quand même. Je pense que malgré moi, c'est quelque chose qui me définit. C'est pas quelque chose dont je parle en premier lieu. Maintenant, je vais dire que je fais ça. J'ai fait du slam, je suis éditeur, etc. Je suis dans le monde du livre qui se fait. Je trouve que c'est dans le monde du livre qui se réfléchit, mais je pense que nécessairement mes lectures vont teinter quand même mes poèmes, vont teinter ma façon de voir le monde, ma façon en cours. Ne serait-ce que, je disais justement, la scoliose des pommiers, qui passe aux femmes que j'aime, l'entièreté des poèmes n'ont pas été écrits dans le cadre de l'université. Il y a d'autres poèmes que j'avais écrits par le passé dans le cadre de ma maîtrise, par exemple, ou dans des ateliers de création. Mm-hmm. Et je lui ai dit, cela, c'est neuf d'université. Après, je me suis rendu compte que j'avais suivi un cours sur la mélancolie, donné par mon directeur de thèse qui est spécialiste de la mélancolie chez Proust. Et donc, je suis comme, ah ben, peut-être que c'est pas vrai, finalement. Peut-être que la mélancolie, mon cours sur la mélancolie a vraiment influencé ma façon d'écrire. Donc, je pense que même en rejetant l'académisme, elle fait partie de moi. Donc, j'essaie de rejeter les conventions, mais encore là, je pense que quelqu'un comme Alexandre Desty ou Marianne Beauchamp le fait beaucoup mieux que moi, parce que moi, je suis dans l'académisme. Je peux pas le désavouer quand même. Mm-hmm. Surtout ma facture de frais d'université, je peux pas le désavouer.
Alors, régulièrement, tu glisses des références aussi d'ordre médical dans tes lignes. Plus loin, tu évoques un traitement, un séjour à l'hôpital. En plus de la pandémie, il y a comme un réel déséquilibre qui est venu bousculer finalement ton univers de poète au cours de l'écriture de ce recueil.
Oui, pardon. J'ai fait beaucoup de séjours à l'hôpital pour des raisons puis par la suite, ils sont bénignes, dans la mesure où, tu sais, au départ, c'était des pierres aux reins qui étaient trop grosses, il a fait qu'on m'a opéré deux fois, après on pensait que c'était un cancer, finalement, ça n'en était pas un. Après, ça a été, j'ai fait une appendicite, après, tu sais, plusieurs choses qui faisaient en sorte que j'allais à l'hôpital une fois par semaine, minimalement, pour des rendez-vous, des prises de sang, des scans, des rencontres de chirurgie. Et donc, j'ai été baigné de ce langage médical là, que des fois le médecin te parle, on parle la même langue, on parle le même langage, mais je ne comprends rien. Il y a vraiment un autre registre de langue qui est le registre médical, comme le langage juridique peut en être un autre aussi. Et à baigner là-dedans et à ne rien faire d'autre qu'être couché sur la civière et à attendre, ben des poèmes me sont venus parce que j'essaie de reprendre le contrôle sur ma vie, de reprendre le contrôle des mots scientifiques, des mots latins, des mots des médicaments qui m'entouraient. Donc, je les ai insérés dans mes poèmes. Mmh. Oui.
Alors, l'usine, le monde du travail est assimilé au mauvais temps. L'ordinaire, la routine est une mauvaise pluie. Tu écris « J'ai la conviction d'un insecte quand il faut puncher au travail ». Slammer, déclamer en public, ta frustration, tu le disais un peu tout à l'heure, ont dû te manquer au cours de la pandémie. Tu écris « Si je parle en public, on respire tout le soufre que je garde en réserve ». Est-ce que le monde du travail réveille tes chats sauvages?
Bonne question aussi, encore là. C'est sûr que, moi, je travaille pas dans une usine, là. Je ne peux qu'imaginer c'est quoi. J'ai grandi à Windsor, qui est une ville assez industrielle avec la Domtar. Fait que je pense que, le monde du travail, le monde de l'usine, l'imaginaire de l'usine, de puncher, de la chaîne de montage, ça vient beaucoup de mes amis d'enfance, de ce rapport-là, puis de, à quel point eux étaient malheureux, puis à quel point, qu'elle vit à Windsor, qui était une usine de pâte et papier, nécessairement, ça doit être encore là, entouré d'une forêt. Il doit avoir l'eau, il doit avoir... C'est comme... C'est... La nature est belle autour d'une usine de papier qui, elle, est très laide. Fait qu'il y a toujours cette antigonie qui existe entre les deux là, qui m'intéresse. Et c'est sûr que des fois, peut-être quand j'étais employé municipal, je travaillais à une bibliothèque municipale, puis c'est employé pour une ville, c'est quand même très cadré, donc je me sentais un peu comme un animal sauvage en cage, parfois, oui, peut-être.
Mais serais-tu tenté par une poésie plus militante, politique même, quand tu écris, par exemple, « Quand est-ce que ça va commencer mettre du feu dans les choses solides ?» ou encore, lorsque tu écris « J'aimerais aller faire des ricochets sur les vitres d'usine, il faudrait réhabiter nos colères ». Une poésie plus engagée te tente ?
Oui, assurément. Mais encore là, il y a toujours ce côté-là. Par le passé, je me suis beaucoup impliqué dans différentes associations étudiantes aussi quand j'étais au Cégep, pendant 2012, entre autres, quand j'ai fondé Fonds de Pomme. Fait que j'ai toujours ce côté plus revendicateur-là encore. C'est sûr que c'est présent dans mes poèmes, là, cette volonté aussi d'essayer de changer le monde par la poésie. Comme je dis, pour moi, c'est ça, écrire des poèmes, c'est un acte au monde, c'est un acte qui s'engage dans quelque chose, qui c'est nécessaire, je crois. Surtout en ces temps où, où la culture, des fois, passe à côté, là, où on coupe en culture, puis on coupe un peu partout, mais bon, ça, on pourra en parler longtemps.
Et oui, on pourrait aussi parler d'amour. Est-ce qu'on coupe dans l'amour? Parce qu'effectivement, il y a de l'amour aussi dans tes poèmes. Mais l'amour est-elle une source d'angoisse, de maladresse? Tu écris « Je n'ai aucun talent quand il s'agit de confiner l'électricité statique » ou plus loin « J'ai tué un rêve ce matin, ça m'a fait échapper toutes les floraisons à tes pieds ». Est-ce que l'amour est une source d'angoisse également?
Oui, ben oui, l'amour est une source d'angoisse. L'amour a été une grosse source d'angoisse aussi pendant les deux ans que j'ai écrit ce recueil-là, parce que nécessairement, mon ex-copine, mon ex-conjointe, finalement, elle est aboutie, elle n'a plus être ensemble au bout de la pandémie, puis au bout de la fin du confinement. Il y a quelque chose de se redécouvrir un peu dans l'acte de l'ordinaire, dans l'acte de tous les jours, puis... Puis je pense que c'est une angoisse aussi, là, de on est plus habitué d'être 100% à nu devant l'autre 24 heures sur 24 pour avoir peur de se taper ses nerfs ou de dire une maladresse ou le mot de trop ou quand t'es stressé de projeter les angoisses sur l'autre. Je pense que c'est très difficile d'être en relation avec l'autre à tous les jours et à toutes les heures, là. Et voilà, ça se témoigne dans mes poèmes beaucoup, je pense.
Alors, lorsqu'on rencontre Anthony Lacroix, il y a un sujet qu'il faut absolument aborder, c'est le baseball qui se retrouve dans ce recueil. Oui. Qu'est-ce qui constitue ce que tu appelles ta charpente d'os? C'est le titre d'une partie publiée dans les écrits, le numéro 162, qui d'ailleurs portait un autre titre qui était Les grands amours de champs opposés. Alors effectivement, tu affectionnes le baseball, c'est l'une de tes passions, ce que tu nommes un pique-nique de cuir. Il était impossible de ne pas en parler dans ce recueil pour toi?
Je pense que le baseball, c'est le plus beau sport. c'est un sport d'attente, c'est un sport de littérature. Il y a beaucoup d'écrivains que moi, je affectionne qui en parlent. On parle de Salinger. Je pense beaucoup souvent au gant de cuir dans Salinger. C'est le personnage principal. Je ne me rappelle plus de son nom. Je n'ai pas la mémoire des noms. Mais qui parle à sa petite sœur à un moment donné, qui parle du gant de baseball de son grand frère qui est décédé. Un gant de baseball à laquelle le grand frère avait écrit des poèmes, parce que des fois au champ, surtout quand on joue au champ gauche, en fait, c'est long, c'est plat, il n'y a rien à faire autre que lire des poèmes. Alors, il les avait écrits dans son gant de baseball. Et c'est un peu ça aussi, c'est un peu ça l'écriture de la poésie, l'écriture en général, je crois. C'est Patrice Desbiens dit « Écrire, c'est attendre en silence en attendant que le bruit du réfrigérateur reparte. Ben, » Le baseball, c'est attendre dans le champ en attendant qu'il se passe quelque chose. C'est toujours l'attente qu'il arrive quelque chose. Le hockey, c'est plus rapide, le soccer, c'est plus rapide aussi. On est toujours dans l'élan, dans le qui-vive. Le baseball... C'est là, puis c'est parfait comme ça.
Oui, là tu précises, parce que là encore, le poète se dissimule derrière le joueur. Ce que tu affectionnes, c'est ce que tu écris, c'est la beauté du geste. Parce que le résultat, la compétition, on sent bien que ça t'importe assez peu. Tu écris « Nous ferons des gestes augustes qui ne mèneront à rien. Ma contenance rompt devant l'éclat du geste. » Alors, comme en poésie, es-tu à la recherche du geste, du vers parfait, ou bien de la verve, de faire un strike avec les mots? Ça te parle?
Oui, toujours. Pour moi, un bon recueil de poésie, c'est un recueil dans lequel il y a au moins un vers qui me fait lâcher le recueil. Un recueil de poésie, à mes yeux, moi, comme lecteur, je ne cherche pas le recueil parfait où chaque poème vient me chercher, vient me triturer l'âme. S'il y a un vers que je trouve qui est le plus beau vers jamais écrit, pour moi, c'est le recueil qui gagne. Donc, au final, on peut faire une game de baseball, ça peut ça aussi. Il y a des gestes qui ne mènent à rien. Bon, après, on retire telle personne, mais c'est le home run qui va gagner la game. Puis tant mieux, tu sais. Mais les home runs, faut pas les vouloir non plus, tu sais. Faut les laisser aller. Je sais pas comment le dire, mais au baseball, on dit toujours, tu sais, quand tu essaies de frapper, vise pas le fond de la clôture nécessairement, parce que sinon, tu vas trop te crisper, puis ça marchera pas. Faut être doux dans tes épaules, tout en frappant fort, tu sais.
Et si je te demandais, au baseball, tu préfères être un frappeur ou plutôt un runner?
Ah, bonne question. Je la détourne. ça, je préfère le catch, le gars en arrière, c'est le gars en
OK. pour finir, si je te demandais qu'est-ce que représente pour toi écrire, mais pas seulement de la poésie, toi qui ne sais pas être poli autrement qu'avec les animaux sauvages, c'est quoi ton amour de l'écriture? Qu'est-ce que tu aimes dans ce geste?
Mais je pense que l'écriture, ça va paraître vraiment trash, mais pour moi, écrire, c'est une manière de survivre, c'est une façon de passer à travers les journées, c'est une façon d'appréhender le monde. Je pense que c'est ça qui est important. Puis c'est pas nécessairement de se faire du bien, parce que des fois, ça fait mal écrire, mais c'est au moins sortir ce qu'on a en dedans. Ah, je disais juste, c'est comme une hygiène de vie, finalement.
Voilà, si l'accumulation des feuilles fait une chapelle au pied de la civière, n'oubliez pas que l'éclat du geste de ce recueil sent bon comme un hot dog au chou un soir de grand match, pour paraphraser l'auteur. Je vous invite à découvrir le premier recueil de poésie d'Anthony Lacroix, La scoliose des pommiers, paru en 2022 aux éditions de la Maison en Feu. Merci beaucoup Anthony d'être passé par Mission Encre Noire. Voilà qui conclut Mission Encre Noire pour ce soir, le tome 36, le chapitre 394. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Catherine Mavrikakis pour nous présenter Niagara, paru en 2022 aux éditions Héliotrope, ainsi qu'en seconde partie d'émission, Anthony Lacroix est venu nous présenter La scoliose des pommiers, paru en 2022 aux éditions de la Maison en Feu. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là!
Fedeu, acho que...
Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava fazendo tudo entupido.
Gostoso! Olha, quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein?
É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.